Vous écoutez, on lit pour vous.
Ce que notre sommeil dit de nous, un texte de Josiane Barrette-Morand et Madhura Lotlikar, paru le 28 juin 2025 dans Le Devoir. Ce n'est pas tous les jours que j'ai une tribune, alors j'en profite pour le clamer haut et fort. Il est 3h50 du matin au moment où ces lignes sont écrites. Je suis fier de respecter ainsi mon chronotype, moi qui suis membre en règle du Club des oiseaux de nuit. Je ferai moins la fière demain matin, lorsque, après une rencontre en visioconférence que je n'ai pas réussi à faire déplacer en après-midi, une collègue m'appellera pour me demander « Es-tu correct? Tantôt, pendant la rencontre, je t'ai senti partir. » J'ai accepté depuis longtemps les conséquences de mon mode de vie. Le teint pâle, les yeux cernés, le décalage social constant. Mais je dois admettre que je ne m'étais jamais vu partir. Puisque la rencontre a été enregistrée, je constate que ce combat contre le sommeil que j'ai mené toute la matinée n'avait rien de glorieux. En revisionnant la rencontre, je me vois grimacer d'effort, puis lâcher prise. Je vois mes yeux se remplir d'eau avant de rouler sous mes paupières. Je vis avec un trouble du sommeil qui n'a été diagnostiqué que tardivement. Mon cas n'est pas exceptionnel. Près du quart des diagnostics de troubles du rythme circadien prennent plus de 10 ans avant d'être posés. Souvent, ils ne le sont qu'après d'autres diagnostics, ceux-là signalant des comorbidités ou étant tout simplement erronés. C'est pour changer les choses en faisant dialoguer les données scientifiques et les histoires vécues que j'ai rejoint à titre de coordonnatrice l'initiative interuniversitaire de Madhura Lotlikar nommée « Partage ton histoire de sommeil ». Nous avons ainsi recueilli plusieurs histoires que nous continuerons de publier sur le site de la Société canadienne du sommeil. Des témoignages d'infirmières de nuit comme Julie et José qui tentent de se garder de l'énergie pour leur famille, de cliniciens comme Benjamin qui s'est adapté à un changement de quart de travail, de dormeurs minimalistes comme Donald qui affirme n'avoir besoin que de 4 à 5 heures de sommeil par cycle de 24 heures, de participantes à la recherche comme Janet qui vit avec l'insomnie qui espère contribuer à de nouvelles découvertes scientifiques, d'étudiantes comme Sophia, qui compose avec les aléas de la narcolepsie et l'incompréhension de son entourage. Chacune des personnes que nous avons rencontrées a une trajectoire unique, marquée par des bouleversements, naissance, séparation, deuil, ménopause, nouvelles médications, changement d'emploi, déménagement. Autant de facteurs qui influencent profondément le sommeil. En recueillant leurs histoires dans un cadre bienveillant, nous espérons bâtir une banque d'anecdotes. Si les anecdotes isolées sont boudées, avec raison, dans le monde scientifique, un ensemble d'anecdotes peut bel et bien orienter la recherche et faire changer les choses. Les médecins publient des études de cas. Il est grand temps que les patients, ces fameux cas, aient aussi un espace pour s'exprimer. Notre démarche d'activisme informé consiste donc à créer un tel espace, ce qui nous met d'ailleurs face à nos propres biais cognitifs. Un exemple. La première fois qu'une personne m'a confié vivre avec le syndrome des érections nocturnes douloureuses, j'ai cru à un nom inventé, à une blague. Comment se fait-il que, malgré des centaines d'heures de formation professionnelle continue sur le sommeil, je n'ai jamais entendu parler de ce syndrome rare et fort désagréable? Deux explications possibles, qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Le syndrome est mal documenté dans la littérature scientifique où je n'y suis jamais intéressé parce que je ne me sentais pas concerné. Le bel égocentrisme épistémique. Madhura, la fondatrice et directrice générale de Partage ton histoire de sommeil, a aussi noté qu'elle entretenait un biais cognitif. Elle éprouvait, en tant que doctorante en neurosciences nourrie à l'impératif du 7 à 9 heures par nuit, de la résistance à l'idée que Donald se sente en forme après avoir dormi moins de 5 heures. On ne se demandera pas, dans de telles circonstances, pourquoi tout le monde n'est pas à l'aise de parler ouvertement de sommeil. Plusieurs des personnes que nous avons rencontrées ont d'ailleurs demandé l'anonymat. Après tout, les données sur le sommeil sont personnelles et révèlent des états de santé que nous sommes tous en droit de vouloir garder confidentiels, surtout si ceux-ci nous exposent à des discriminations. La fatigue est encore très stigmatisée, souvent confondue à tort avec la paresse. Pourtant, les personnes que nous avons rencontrées redoublent d'efforts dans tous leurs projets, leurs relations, leurs études, leur emploi et leur sécurité en dépendent la plupart du temps. À travers leurs histoires, des besoins communs commencent à se dessiner. D'abord, un besoin de soutien. Un besoin que les personnes qui prennent les décisions en matière de soins, d'urbanisme, de santé publique, de sécurité au travail, etc., deviennent leurs alliés. Qu'elles adoptent une approche formatrice, accommodante et préventive, et qu'elles normalisent une gestion plus inclusive de l'espace et du temps. Daniel Weinstock et d'autres chercheurs le remarquaient déjà en temps de pandémie. Mus par la convention, les horaires de travail, des garderies et des écoles créent des achalandages spatio-temporels. On se transporte et on s'immobilise au même endroit, au même moment, pour la même durée, quitte à perdre de vue le portrait global. Nos semaines ont bel et bien 7 jours, non 5, et nos journées 24 heures, non 8. Nos chronotypes varient entre le fait d'être lève-tôt ou couche-tard. Pourquoi nos préférences ne jouent-elles pas un plus grand rôle dans le choix de nos horaires? Flexibiliser notre façon d'investir l'espace et le temps, changer la représentation sociale de la fatigue et reconnaître le sommeil comme un pilier de la santé publique, ce n'est pas anecdotique. Ça devrait être prioritaire. Il n'y a qu'à penser au rôle de la fatigue au volant dans les accidents mortels au Québec. Nous avons tous quelque chose à gagner en accordant au sommeil la place qu'il mérite dans nos vies, en respectant comment il se présente dans la vie des autres, en passant par-dessus la honte et en l'incluant en amont dans nos considérations quotidiennes. Sans parler des fardeaux sociétaux, des vies qui pourraient être sauvées, des dépenses qui pourraient être allégées, si on sentait moins l'obligation de performer pendant les périodes où notre vigilance se dégrade. Plus nous rencontrons de personnes afin de recueillir leurs histoires, plus nous avons l'impression de dire tout haut ce que tout le monde pensait déjà tout bas, pour la simple raison qu'il n'existe pas encore beaucoup d'espace où, justement, clamer haut et fort nos besoins individuels, collectifs et sociétaux en matière de sommeil. C'était « Ce que notre sommeil dit de nous », un texte de Josiane Barrette-Morand et Madhura Lotlikar, paru le 28 juin 2025 dans Le Devoir.
Les victimes de Mount Cashel recevront de nouvelles indemnités. Un texte de François-Pierre Dufault, paru le 25 juin 2025 sur Ici, Terre-Neuve et Labrador. Des centaines de victimes d'abus de la part de l'Église catholique à Terre-Neuve et Labrador recevront bientôt de nouvelles indemnités. Un tribunal a approuvé le versement d'une somme de 14,4 millions de dollars à quelques 360 demandeurs qui ont subi des abus de la part de frères chrétiens et d'autres religieux dans l'ancienne orphelinat Mount Cashel à Saint-Jean. Selon des documents du tribunal, les plaignants se verront accorder une indemnisation supplémentaire de 8 000 $ à 126 000 $. Cette somme s'ajoute aux 22 millions de dollars déjà versés l'an dernier. Un tribunal a reconnu l'archidiocèse catholique de Saint-Jean responsable des abus commis pendant des décennies par des religieux dans l'ancien orphelinat Mount Cashel. En 2021, l'organisation religieuse s'est placée à l'abri de ses créanciers. L'objectif était de liquider ses actifs situés sur les péninsules d'Avalon et de Burin afin de verser des indemnités totalisant plus de 121 millions de dollars. Selon le dernier rapport du syndic responsable de la liquidation, 116 propriétés avaient été vendues pour une somme de 31,4 millions de dollars en date du 30 avril dernier. L'archidiocèse a également reçu des millions de dollars du gouvernement provincial pour la vente de propriétés scolaires, notamment. C'était « Les victimes de Mount Cashel recevront de nouvelles indemnités », un texte de François-Pierre Dufault, paru le 25 juin 2025 sur Ici, Terre-Neuve et Labrador.
Déménageurs bienfaiteurs, un texte d'Émilie Côté et Hugo-Sébastien Aubert, paru le 27 juin 2025 dans La Presse. Quand Sarah a vu l'annonce de Rebut Récup, elle a sauté sur l'occasion. Elle pouvait enfin se débarrasser de ce qu'elle empile, mais qu'elle tarde à aller porter à un organisme, faute de posséder une voiture. On vient à moi? Vraiment? J'en ai même parlé à des amis. Donner des meubles sans se déplacer? C'est possible grâce au programme Rebut Récup de l'organisme sollicité qui gère le programme d'économie circulaire et solidaire. Alors qu'une collecte est en cours jusqu'au 4 juillet dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, en plein pendant la période des déménagements, nous avons pris part à celle qui a eu lieu il y a un mois à Westmount. Disons que c'est un coin où les gens doivent avoir de belles choses à donner, lance Sarah Titanic, c'est son vrai nom, assure-t-elle en riant, qui loue une charmante maisonnette dans la cour d'une famille qui, elle, vit dans une vaste demeure. Sarah avait beaucoup à offrir. Une chaîne stéréo qui fonctionne avec Bluetooth, un cuiseur à riz, des tringles de rideaux. Le principe de Rebut Récup est simple. Les gens qui désirent se départir d'une table ou d'une lampe encore en bon état prennent rendez-vous, puis des représentants passent chez eux au moment convenu. Héloïse Figazewski, chargée de communication pour l'organisme sollicité, résume. L'idée est de faciliter le processus pour que les meubles soient réutilisés et redistribués à des organismes. Les collectes s'accompagnent de journées vide-greniers, en quelque sorte l'équivalent des ventes de garage. À Westmount, Rebut Récup avait aménagé un conteneur dans un parc où tous pouvaient venir faire des achats selon le principe de « donner ce que vous pouvez ». Dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, le site de revente sera à l'angle des avenues de l'Esplanade et du Luth, près du parc Jeanne-Mance, le 30 juin, puis du 1er au 4 juillet. Du donnant-donnant. À Westmount, nous avons suivi une employée et un bénévole de sollicité alors qu'ils se rendaient chez des gens qui avaient rempli, au préalable, un formulaire pour indiquer ce qu'ils avaient à donner. Benjamin de la Jonquière est en vacances au Québec pour 6 mois et il offre de son temps à Rebut Récup. Je ne peux pas travailler, donc j'en profite pour faire du bénévolat, dit le mécanicien de véhicules de compétition. « Rien à voir », lance-t-il. De son côté, Bertille Domalin est chargé de projets pour Rebut Récup depuis quelques mois. « J'aime le croisement entre les dimensions sociales et environnementales », expose-t-elle, en soulignant des partenariats avec des organismes comme l'Armée du Salut ou Pain et Plus. C'est notre première édition à Westmount et nous sommes vraiment ravis à souligner Héloïse Figazelski. On va répéter l'expérience, c'est certain, a par ailleurs assuré Patricia Rassette, chef de division en environnement à la ville de Westmount. Pour une ville, dit-elle, c'est formidable, car c'est une belle action et un programme clé en main. Regarde, ce monsieur vient pour une troisième fois depuis ce matin. Il est revenu en voiture, a lancé Patricia Rassette, alors que nous discutions. J'ai mis un meuble de côté, a confirmé Bernard Cloutier, qui avait vu le conteneur de solliciter plus tôt en promenant son chien. Au même moment, une joggeuse n'a pu s'empêcher de s'arrêter pour regarder de plus près des talons hauts. Comme le soulignait Sarah, s'il y a un coin cossu de Montréal où il y a un grand potentiel de belles trouvailles, c'est bien Westmount. Nous avons vu en vente, après avoir été récupérés, un saxophone, des vêtements griffés, des sacs en cuir, des meubles de style art déco, une chaîne hi-fi, des fauteuils roulants, une mijoteuse, etc. Récupérer même des mégots. Rebut Récup est né il y a 8 ans dans le secteur Milton Park. Sollicité remarquait, autour de l'université McGill, la grande quantité de biens abandonnés au bord de la rue après les examens finaux des étudiants au printemps. Il fallait trouver une solution et nous avons créé Rebut Récup avec l'association étudiante. Depuis, nous avons détourné des tonnes et des tonnes de meubles des sites d'enfouissement, fait valoir Héloïse Figazelski. Certaines collectes se font en camion, mais la plupart se font en vélo-remorque. Ne sont pas acceptés les articles rembourrés, matelas, divans, ainsi que les appareils ou meubles trop lourds ou endommagés. Outre le programme Rebut Récup, Sollicité est chargé de gérer l'éco-quartier Ville-Marie de Peter McGill. L'organisme Éco-quartier Ville-Marie de Peter McGill est aussi derrière le réseau de cendriers Mégo Zéro. En 2024, nous avons récupéré 800 000 mégots. Vous savez quoi? Même les restants de cigarettes sont recyclés. On peut en faire du mobilier urbain et des palettes de transport. C'était « Déménageurs bienfaiteurs », un texte d'Émilie Côté et Hugo-Sébastien Aubert, paru le 27 juin 2025 dans La Presse.
Dans le Mile End, Renzo veut réinventer le comptoir à sandwich. Un texte de J.P. Karwaki, paru le 9 juillet 2025 dans Urbania. Dans une ville où les comptoirs à sandwich fancy sont plus fréquents que les logements abordables, il en faut beaucoup pour qu'un nouveau se démarque du lot. Fraîchement débarqué au coin de Saint-Laurent et Fermante, Renzo affiche une réussite sur toute la ligne. À elle seule, l'enseigne retient l'attention. Peinte à la main, audacieuse et lisible à un coin de rue. Même si je n'ai pas faim, je lis « Sandwich à 500 mètres ». C'est sûr que je mange un sandwich, lance Guillaume Ménard, cofondateur et designer chez MRDK. Et c'est précisément le but. Renzo a avant tout été conçu pour se faire remarquer, mais pas de façon criarde ni tape à l'œil. Il s'agit plutôt d'un lieu sûr de lui, sans être arrogant, stylé sans trop essayer, nostalgique sans tomber dans le pastiche. C'est aussi le fruit de gens qui ont de l'expérience et savent comment faire mieux. Résolument montréalais. Renzo, c'est un projet qui mijotait depuis déjà plusieurs années. Ce qui n'était au départ qu'un comptoir à sandwich fantasmé est devenu une opération finement rodée et portée par une équipe solide. Justin Daou, stratège marketing, qui effectue un retour dans le milieu de la restauration après l'avoir quitté il y a 5 ans. C'est d'ailleurs son agence, Nouvelle Idée, qui a signé l'identité visuelle de l'établissement. Sinon, Bastien Daou-Baudin chapeaute les opérations, le chef Jean-Michel Leblond, alias John Mike, grand amateur de cuisine country, s'occupe du menu. Comme précédemment mentionné, Guillaume Ménard signe le design et Daniel Chartrand complète le tableau. Chacun a apporté son expertise et est devenu copropriétaire. Pas de passagers, pas de consultants. Juste une gang de gars vraiment, vraiment passionnés. Un élan de fidélité qui s'étend aussi au quartier. Renzo s'intègre naturellement au Myland. Avec Fairmont Bagel à 2 pas, des comptoirs de style dépanneur tout autour et une école secondaire juste en face, l'endroit est pensé pour servir les gens du coin, peu importe l'âge. Selon Justin, même si c'est ce que l'ambiance peut évoquer, Renzo n'est pas un comptoir à sandwich typiquement italien, malgré leurs ingrédients. Le but, c'est plutôt de proposer quelque chose de résolument montréalais. On utilise un pain de style italien, une ciabatta artisanale, mais les garnitures viennent de partout. Smoked meat, charcuterie, poulet César, chou frit au jalapenos. On est des Montréalais, on aime ça mélanger des affaires, explique-t-il. Le sandwich au smoked meat est sans doute l'item le plus personnel du menu. Je suis allé à Seattle et j'ai découvert ce sandwich. Pour moi, c'était comme croquer dans un sandwich montréalais, mais ailleurs, raconte Justin. Sinon, le menu est un hommage au repas en famille au Nouveau-Brunswick, aux délicatessen juifs et aux diners du nord-est américain, le tout réuni en un seul plat. Ce mélange de souvenirs, de saveurs liées à un lieu précis et de remix intelligent, c'est toute la philosophie de Renzo. Derrière le comptoir, le menu est une véritable célébration de la variété. 14 sandwichs dûment numérotés et dans la digne tradition des délis, accompagnés de leur liste d'ingrédients. Sur une ligne, on peut lire « mortadelle et giardinieria ». Sur l'autre, « aubergine au gochujang et courgettes frites ». Le prix de chaque sandwich se situe aux alentours de $15.75 et les options comprennent des saveurs nostalgiques, le sob classique ou le club à la dinde, et d'autres options plus créatives, poulet buffalo et pan bagna. Il est possible d'y ajouter du fromage, une protéine de votre choix, ou des légumes pour quelques sous de plus, et les desserts, dont un pudding chômeur et une key lime pie permettent de se gâter juste assez. Mais les sandwichs ne sont qu'une partie du menu. Il ne faut pas oublier les accompagnements, les desserts et les slushs alcoolisés aux combinaisons bien pensées. Mangue épicée, goyave jalapeno, calimocho espagnol, ainsi qu'une sélection de breuvages choisis avec autant de soin que le menu. On a du soda amaro en fût, précise Bastien Daou-Baudin. Des amis ont brassé une Pilsner Renzo juste pour nous. Même le frigo à liqueur a été soigneusement sélectionné. On retrouve aussi un petit coin boutique, véritable clin d'œil aux délicatessen d'autrefois, où l'on peut se gâter avec une boîte de sardines ou un sac de chips. On a sélectionné des conserves, des chips, des vins d'importation privée. Ça a toujours été une question de bonne bouffe, ajoute Bastien. Et si l'espace boutique contribue à l'esthétique du lieu, ce n'est pas comme vous pourriez le croire. Sur les traces des légendes, pour le design, on s'est inspiré de Wilinski, de Schwartz, mais aussi de ces anciennes boucheries de la petite Italie, explique le designer et copropriétaire Guillaume Ménard. On s'inspire aussi des restos de New York, Boston, Détroit, mais toujours avec une approche contemporaine. On ne veut surtout pas juste être une copie de ce qui se faisait il y a 70 ans. Ça signifie choisir des matériaux qui vieillissent bien. Rien de trop tendance. Juste un bon vieux design vintage qui, on l'espère, va se bonifier avec le temps, explique Ménard. Le carrelage a été fabriqué sur mesure pour nous. Tu ne le trouveras nulle part ailleurs. Et cet engagement à simplement bien faire les choses, sans trop flasher, se reflète également dans la façon dont l'endroit fonctionne. Ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 20h, sans horaire étrange ni stratégie de rareté pour générer du buzz. C'est ça, faire partie du tissu institutionnel. On est toujours ouvert, toujours là. C'est un peu comme chez nous, dit Guillaume. Cette idée, celle de toujours être là, est un choix bien conscient. Dès le départ, l'objectif n'était pas d'attirer l'attention des médias culinaires, mais bien de s'inscrire dans le quotidien même de la ville. Rien de trop cheap, ni de trop gourmet. Un produit accessible tout simplement. C'est cette logique qui fait que Renzo ne donne pas l'impression d'un pop-up, mais bien d'un lieu qui a toujours été là. Malgré toute l'attention portée aux détails, Renzo cherche surtout à être bon, fiable et à faire parler de lui. Vous pouvez facilement prendre un sandwich pour deux, un breuvage, un side. C'est pas si cher quand on y pense, ajoute Guillaume. En conclusion, Renzo n'est peut-être pas le cool kid du quartier, mais il risque de rester assez longtemps pour devenir un vieux sage. C'était, dans le Myland, Renzo veut réinventer le comptoir à sandwich, un texte de J.P. Kawaki, paru le 9 juillet 2025 dans Urbania.